Donc, Philippe, on va revenir sur le point de presse. Donc, on a entendu le premier ministre d'entrée de jeu, mais Christian Dubé aussi a été... Moi, j'ai jamais vu le ministre Dubé, depuis qu'il est entré en poste, être aussi, je dirais, sévère avec les Québécois.
Ah oui, tout à fait. Il a été très, très direct. On a vu, hein, le ton a été donné dès l'ouverture de ce point de presse-là. Patrick, il n'y a pas eu de petit laïus pour dire qui avait fabriqué le masque, puis il n'y a pas eu de remerciement du jour, puis il n'y a rien eu de tel. On est allé vite à l'essentiel. M. Legault a été plutôt très solennel et très rigoureux, très précis dans ce qu'il disait. Et je l'écoutais, puis je me disais, là, l'étape suivante, là, il faudrait que ce soit une allocution télévisée à heure de grande écoute, ouais, un soir. Là, c'est, on est rendu là, là, parce, ouais, que là, c'est quand même une conférence de presse à 13h. Mais effectivement, monsieur Dubé a répondu à une question que je trouve particulièrement intéressante, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui disent « Hey, oui, c'est vrai, les cas augmentent, mais pourquoi c'est si grave que les cas augmentent alors que le nombre de morts augmente très tranquillement, le nombre d'hospitalisations aussi? » Alors, il sait que c'est un enjeu, ça, et il a tenu à répondre à cette question-là.
On se demande, mais pourquoi vous êtes si inquiet pour les cas alors qu'on ne voit pas soit l'augmentation des hospitalisations ou des décès? Bien, je vous dirais, premièrement, dans les derniers jours, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent ça de près, il y a eu une augmentation des hospitalisations. Mais encore plus important que ça, c'est tout l'impact que ça a sur notre réseau de la santé. Le fait de ne pas suivre les règles a un impact, oui, sur les gens eux-mêmes qui peuvent contracter la maladie ou la donner à d'autres. Mais en ce moment, on a un réseau de la santé qui est très fragile.
Alors, tout est là. Hein? C'est revenu souvent dans le point de presse, ben la, oui, fragilité du réseau.
Et tu sais, Philippe, j'y vais de mémoire, là, mais il y a quelque chose comme 1000 lits de soins intensifs au Québec. Ça, les soins intensifs, là, c'est quand vous êtes carrément sous respirateur, votre vie est bien souvent menacée. Faites un ACV, vous pouvez vous ramasser aux soins intensifs, un accident de voiture, un trauma de quelque nature que ce soit. Et la game, c'est la même. Un double, puis elle concerne les hôpitaux. C'est, tu veux pas qu'on en vienne à manquer de lits de soins intensifs? Parce qu'oubliez pas, là, je dis 1000, mais pendant qu'on... C'est pas 1000 personnes qui ont la COVID. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont des accidents de voiture, qui tombent de leur échelle, qui font des crises cardiaques, etc., qui ont des complications après une opération, etc., etc. Et en plus de ça, tu veux pas que les hôpitaux deviennent eux-mêmes contaminés et que les soignants deviennent malades dans un cas catastrophe, puis c'est ça qui guide un peu tout le monde, là, en Occident et ailleurs dans le monde. Tu veux éviter le scénario italien où tu es obligé de quasiment fermer des hôpitaux. Ouais. Est-ce qu'on veut faire, on veut-tu que nos proches, quelqu'un dans nos proches fasse un infarctus puis qu'on ne puisse pas le traiter parce que l'hôpital A est fermé, il faut aller à l'hôpital B qui est plus loin? C'est ça la game. C'est pas de dire, ah, il y a juste X personnes qui sont atteintes, c'est pas grave. C'est la capacité des hôpitaux qui est problématique.
Et de faire des choix sur qui on va traiter.
Oui.
C'est terrible, ça.
Mais évidemment, je sais que pour la frange la plus complotiste, la plus laissée-aller, la plus libertarienne de notre auditoire, tout ça, c'est de l'alarmisme. Ben, écoutez, vous pouvez penser ça. Parfait. Évidemment, ici, comme ailleurs, on s'adresse aux gens de bonne volonté. Et là, ce que le gouvernement dit... Et les chiffres le montrent, il y a un relâchement. Est-ce que c'est dû au fait qu'on commence à se réencabaner? On verra, mais ça monte. Philippe, on s'est étonné qu'on dépasse le cap du 100 nouveaux cas par, ouais, jour, tout récemment, là. On est rendu à près de 300 aujourd'hui, 292.
Tout à fait. Le 17 août, date où on a repris notre émission, Patrick, c'était 55 nouveaux cas. Aujourd'hui, on frôle les 300 et on est en hausse, là. À tous les jours, il y en a un petit peu plus. La moyenne mobile sur 7 jours n'arrête pas d'augmenter.
OK, on va aller à Québec parler avec Louis Lacroix, le chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale. Salut, Louis.
Oui, bonjour, Pat.
Donc, je me trompe pas en disant, hein, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est le ton.
Ouais.
C'est le ton de conférence de presse le plus grave depuis les heures les plus sombres du printemps.
Oui, puis je pense que la raison pour laquelle M. Legault et M. Dubé ont adopté ce ton-là, ben c'est Horacio Arruda qui l'a donné en toute fin de conférence de presse quand il a dit que il y a une deuxième vague qui semble se pointer et il dit que statistiquement parlant, là, lorsqu'il y a une deuxième vague, c'est toujours plus important que la première vague dans une proportion, des fois ça peut aller jusqu'à 3 fois plus important. Alors, c'est inquiétant. Et c'est ça qui inquiète le premier ministre et Christian Dubé, parce qu'on veut... Ça, évidemment, c'est si on fait rien, là. Oui. Mais c'est quand même des statistiques et des données qui sont extrêmement inquiétantes. Et François Legault a dit aujourd'hui, si on fait rien, si les Québécois ne se comportent pas mieux, si on fait pas attention à ce qu'on fait Par exemple, dans les parties privées, parce que ça, c'est vraiment en ce moment là ce qu'on cible, là, les réunions de famille, les barbecues, les épluchettes de blé d'Inde ou ces trucs-là où les gens se rassemblent et se transmettent la COVID-19, ben, ce qui pourrait arriver, c'est un reconfinement. On écoute François Legault.
Et il y a un vrai risque de deuxième vague. Donc, il y a un vrai risque qu'il y ait une vague assez forte pour qu'on soit obligé, effectivement, de recommencer à confiner les Québécois. Donc, on veut pas ça.
Alors, le risque, c'est de reconfiner. Le risque, c'est pour le système de santé. Tu le mentionnais tout à l'heure. Effectivement, il y a une fragilité du système de santé. Il faut dire qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé dans les CHSLD et ce qui se passe en hôpital. Parce que dans les CHSLD, oui, on a formé à la sauvette, en toute rapidité, des préposés aux bénéficiaires. Mais dans les hôpitaux, la fragilité du personnel demeure. Parce que ça prend 3 ans former une infirmière. Tu peux pas arriver en criant ciseaux. On a un problème. Ça prend des infirmières de façon rapide. On les forme en l'espace de 3 mois. C'est impossible. Ça prend 3 ans à faire. Alors, il y a cette fragilité-là. Christian Dubé l'a dit tout à l'heure. C'est une crainte importante du ministre de la Santé de se retrouver avec des cas et des cas dans les hôpitaux qui va faire en sorte de se retrouver dans une situation incontrôlable. Et c'est ça qu'on essaie de prévenir en ce moment. Pour cette raison-là, il y a des décisions qui ont été prises. Les bars, entre autres, n'auront plus le droit de servir de nourriture après minuit parce que le prétexte qu'on faisait, c'est de dire qu'il y a déjà une interdiction de servir de l'alcool après minuit. On disait, oui, mais si vous commandez de la bouffe, ah ben là, c'est comme si vous étiez dans un restaurant. Donc, on peut continuer à vous servir. Alors, on enlève cette permission-là et ça va faire en sorte de vraiment arrêter le party, là, si on veut, dans les bars à partir de minuit. Et dans les résidences pour personnes âgées, les RPA, dorénavant, les gens vont devoir également, les résidents vont devoir porter le masque dans les aires communes et dans les corridors. Moi, ma mère est dans un RPA, puis quand on va la visiter, nous, on doit porter ce masque-là, mais les résidents n'ont pas à le faire. Mais là, à partir de maintenant, ce sera obligatoire, justement, pour essayer de les protéger encore davantage, parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'année passée. Bref, ce sont des mesures importantes, mais qui vise à prévenir ou à aplatir la fameuse ligne qui est en train, la fameuse courbe là, qui remonte lentement mais sûrement vers des données qui sont beaucoup plus importantes qu'il y a un mois.
Très bien, merci Louis.
Ça fait plaisir, au revoir.
Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale. Et Philippe, un des trucs qui m'a renversé dans la conférence de presse, c'est le manque de collaboration de certaines personnes qui sont contactées par la santé publique. Ouais. Qui veulent pas dire, ouais, ben écoutez, oui, j'ai un test positif, merci de me le dire. Et dans les dernières semaines, voici où je me suis rendu. Des gens qui refusent de collaborer. Écoute, en termes d'égoïsme, là, ça, tu mets ça au temple de la renommée de l'égoïsme.
Monsieur Arruda s'est même senti obligé, Patrick, de dire, hey, quand on vous appelle, là, on vous chicanera pas. Ce qu'on veut, c'est les noms pour empêcher la maladie de se propager.
Juste rappeler que dans certains pays semi-démocratiques, on prend les gens puis on les oblige à rester à la maison, mais obliger la surveillance électronique par ton téléphone avec une application, etc. On n'a pas idée à quel point on est chanceux de ne pas vivre dans des pays comme ça, mais mon Dieu qu'avec liberté, il y a le mot responsabilité aussi. Qui est oublié par beaucoup de gens.
Oui, qui est oublié. Puis Monsieur Dubé, le ministre Dubé, en a donné une idée très claire. Il a cité des exemples. Hein. Il a dit, pour rendre ça très concret, il a cité des exemples. Tu as parlé tantôt de la coiffeuse dans la région de Chaudière-Appalaches, si je ne m'abuse. Mais il a aussi raconté une histoire dans un restaurant en Montérégie. C'est vraiment une histoire assez abracadabrande. Écoutons le ministre Dubé.
Un pique-nique, un barbecue extérieur au Mont-Saint-Bruno, sans aucune mesure de distanciation. Pas de masque. Il y a au moins 5 cas qui viennent de ça. Et ça, c'est 5 cas avant de considérer la contagion. À mon sens, c'est inacceptable. Si les gens ne comprennent pas ce genre d'exemple-là, bien, je m'excuse, mais ils ne comprendront jamais.
C'est un cri du cœur, ça.
quand je disais que c'était le ton le plus sévère du ministre Dubé, c'est ce que je voulais dire. Okay, ça, c'est un cas,
ouais.
Et je pense qu'on en a un autre.
Hein? En Montérégie, là, nous avons eu un rassemblement de 17 personnes dans un restaurant. 17 personnes. Ensemble. À cause de ce rassemblement-là, j'ai 31 cas en ce moment qui sont associés à ce rassemblement-là depuis qu'il y a eu lieu. Mais savez-vous, on va devoir faire le dépistage de 330 clients qui sont inscrits au registre de ce restaurant-là. Alors, imaginez-vous la charge de travail pour les gens de santé publique de tout contacter ce monde-là. Et malheureusement, il y a des gens qui répondent même pas aux appels, qui veulent pas répondre aux appels.
Tu vois, Philippe, moi, le relâchement, je peux le comprendre. Il y a personne de parfait, incluant la personne qui parle, OK? Je, comme bien d'autres, je fais moins attention que je faisais attention au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Parfait. Mais c'est le dernier bout qui est relaté par le ministre qui me renverse. Il y a des gens qui veulent pas parler à la santé publique. Mais Christy, qu'est-ce que vous faites ici? Déménager dans un pays où il n'y en a pas d'État, vous allez être bien, bien mieux. Ah, je trouve ça tellement égoïste. OK, on a Pierre-André Normandin, qui est journaliste à La Presse, qui décortique les chiffres de la COVID et d'autres types de chiffres, mais on devine que de ce temps-là, c'est la pandémie qui le tient occupé. Salut, Pierre-André.
Salut, ça va?
Oui, ben, ça allait jusqu'à ce que je réentende le ministre Dubé. OK, dis-moi, le portrait là, de la situation, selon les régions, c'est quoi là, à l'heure actuelle?
Bon, bien, ça monte beaucoup dans l'est du Québec. Là. On voit que la tendance est vraiment à la hausse là, dans la région du Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Dans le Grand Montréal, c'est un peu ambivalent. Là. Les nombres étaient à la hausse depuis le début du mois de septembre, mais là, au cours de la dernière semaine, ça s'est comme calmé, c'est allé à la baisse. Mais là, aujourd'hui, par contre, les nouvelles étaient mauvaises. Donc, là, donc c'est à suivre.
OK. Puis les endroits où il y a le plus d'augmentation, c'est quelle région?
Ah, c'est vraiment sans contredit là, le Bas-Saint-Laurent. Là-bas, juste donner un exemple, là, j'aime pas ça parler en millions d'habitants, mais bon, c'est l'indicateur, le 20 cas par million là, que le gouvernement cible. Mais là-bas, au Bas-Saint-Laurent, on était à 3 cas par million il y a peut-être une semaine. Aujourd'hui, on est à 90 cas. Ça, c'est la moyenne mobile. La hausse est tellement forte, en fait, que ça m'étonne même qu'elle soit pas passée de la région de vert à orange d'un seul coup, parce que on s'appelle le seuil, c'est 20, peut-être 40 ou 60 cas par million pour être en jaune ou orange. Donc,
mais il y a un élément subjectif, je pense, dans le calcul du gouvernement, Pierre-André, hein, parce qu'on y va aussi avec la capacité hospitalière, etc. Les barèmes ne sont pas les mêmes pour toutes les régions pour ce qui est du changement.
Exactement, mais c'est juste pour illustrer à quel point la hausse était vraiment forte. Là.
Oui. OK, parfait. Faisons le point sur le nombre de cas, mais aussi les décès, les hospitalisations. Ça semble se stabiliser.
Ben, en fait, il y a toujours plusieurs indicateurs à surveiller là, parce que il y a d'abord les cas, les gens attrapent la maladie. Mmh. Après ça, il y en a certains qui deviennent malades, qui vont à l'hôpital, qui deviennent plus malades. Puis après ça, malheureusement, il y en a certains qui décèdent. Donc là, les cas, là, ce qu'on voit, c'est que depuis 3 semaines, c'est en hausse. Hein, aujourd'hui, là, Philippe le disait tout à l'heure, là, on était à 292. Là, c'est 3 fois plus que ce qu'on voyait à la mi-août. Là, les malades, eux, depuis à peu près une dizaine de jours, on voit que ça augmente. Là. Je vais te donner un exemple, là. La dernière semaine d'août, il y avait 36 personnes qui se sont présentées à l'hôpital qui ont été admises là, parce qu'il y avait la COVID et des symptômes très forts. La semaine dernière, au complet, 66. C'est à peu près 2 fois plus. Puis là, dernier indicateur, depuis une semaine, malheureusement, on voit que les décès aussi sont tranquillement, ont commencé à augmenter. T'sais, on ne parle pas d'une explosion. Là. Juste vous dire, là, il y a une semaine, on a connu la semaine la plus tranquille depuis le début de la pandémie. Il y a eu seulement 5 décès. Mais la semaine dernière, on a monté à 10. Donc, on voit que l'aiguille, tranquillement, pas vite, a recommencé à aller vers la zone inquiétante là, pour les décès.
OK. Pierre-André, on parlait beaucoup cet été du fait que c'était des jeunes qui étaient infectés. Est-ce que c'est encore le cas là, maintenant qu'on s'en va vers l'automne?
Ben, en fait, depuis la rentrée, ce qu'on voit, c'est que ça se répand dans plusieurs groupes d'âge. Là. Donc, je dirais que ça serait chez les 10 à 60 ans. Il y a même une légère hausse là, chez les gens plus âgés. Là. Puis ça, c'est inquiétant parce que ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie, c'est les gens qui ont 70 ans et plus là, qui sont à risque de décéder. Puis d'ailleurs, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les RTA. Puis je suis allé voir, pendant que Louis Lacroix parlait, là, je suis allé voir les chiffres. Le gros des décès depuis 2 semaines, c'est dans les RTA, malheureusement, qui sont survenus alors que depuis le début de la pandémie, c'était les CHSLD.
Je comprends. Parfait. Bon, merci beaucoup, Pierre-André.
Merci à toi.
Pierre-André Normandin, journaliste à La Presse, qui décortique les chiffres. de la COVID. OK, Philippe?
Oui, ben Patrick, dans un instant, on va écouter Horacio Arruda là, quand il dit ça pourrait ressembler à quoi la deuxième vague. Louis en a parlé tantôt. Je vais vous faire écouter l'expression qu'il utilise. C'est assez fort. Mais juste avant, Pierre-André vient de dire qu'il a été étonné que dans le Bas-Saint-Laurent, on passe pas directement de vert à orange. Mais ça signifierait quoi, orange? Alors, il arrive quoi quand on est en zone orange? Il n'y a aucune région du Québec qui l'est encore. Là. Il y en a 8 qui sont à jaune, mais aucune à orange. Ben à orange, là, on tombe dans les vraies affaires. Ça veut dire qu'on réduit le nombre de gens dans les événements. Dans les maisons, ça serait plus 10 personnes, ça serait 6. Les mariages, ben, on diminuerait la capacité. Les bars seraient fermés. Les restos fermés uniquement des repas pour emporter. Alors, on le voit, là, ça change de façon assez dramatique la vie quotidienne si on se rend dans orange. Alors, je pense que le gouvernement veut être prudent, mais quand il va falloir qu'il aille là, ils n'auront pas bien le choix. Et pourquoi? Parce que cette deuxième vague-là, potentielle, elle est très inquiétante et le docteur Arruda l'a expliqué de façon très claire.
Là, la courbe, là, il faut la réaplatir. Il faut qu'on reste dans le jaune, quitte à revenir dans le vert, mais pas aller vers l'orange puis le rouge. Fait que je vous supplie de collaborer avec les gens de santé publique parce que c'est vraiment, qu'on le veuille ou non, une question de vie ou de mort ou de liberté qu'on a eue. Je pense que porter un masque, maintenir à 2 mètres les distances puis éviter les gros rassemblements, c'est peu payé par rapport à ce qu'on va voir venir si jamais ça se remet à flamber. Ça peut véritablement, et quand ça flambe dans une deuxième vague, la première vague, c'est de la petite bière par rapport à la deuxième.
Je sais que c'est déprimant d'entendre ça. Moi, personnellement, ça me déprime, puis peut-être que les auditeurs peuvent l'entendre dans le ton. J'ai l'impression d'un retour vers le futur. J'ai l'impression de revenir au mois d'avril, quand c'était pesant, quand c'était lourd. Mais écoutez, ce sont les nouvelles du jour. Il y a un relâchement. Est-ce que c'est que du comportement ou c'est circonstanciel? On verra. Espérons que ça ne va pas durer. On va en parler tout au long de l'émission, mais on va parler d'autres choses aussi.